Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Jean-Baptiste Djebbari, bonjour.
Bonjour à vous, monsieur Bourdin.
Ministre des Transports, nous allons parler aviation, nous allons parler du train. Mais j'aurais commencé avec la route, budget 2022, tout à l'heure en Conseil des ministres. Vous l'avez remarqué, les carburants sont chers. Alors, question simple, est-ce que vous allez baisser les taxes pour faire baisser les prix ?
Bon, alors, question simple et réponse un tout petit peu plus élaborée, parce que le sujet est connu, mais en même temps, il faut le rappeler, le prix des carburants, c'est essentiellement le prix des matières premières, du pétrole, du baril de brut, qui augmente aujourd'hui, tiré par la demande américaine, la reprise, le rattrapage américain. Et c'est tout le temps comme ça, c'est à peu près 30% du prix. Après, on a des taxes par-dessus. Le sujet derrière, c'est le pouvoir d'achat. Et après, je réponds à votre question, c'est le pouvoir d'achat. Ce qu'on peut quand même rappeler, parce que les faits sont têtus, monsieur Bourdin, c'est que si Emmanuel Macron est le président de quelque chose, c'est du pouvoir d'achat dans ce quinquennat. Et les chiffres, là aussi, ont été rappelés hier. Depuis 2017, les Français, en fonction de la composition des ménages, ont gagné, quand on regarde simplement les taxes, taxes d'habitation et les impôts, entre 800 et 4600 euros par an et par ménage. Donc il y a une vraie politique massive en faveur du pouvoir d'achat. Après, sur la baisse des taxes, d'abord, ces propositions, elles sont connues. Ça s'appelle la TIPP flottante ou la taxe flottante. Oui, ça a été fait par certains gouvernements précédents. Ça n'apporte aucune solution sur le long terme. Ce sont des solutions conjoncturelles.
Non, mais...
Et donc, voilà, je veux dire, quand on fait de la politique, on peut fois regarder...
Jean-Baptiste Djebbari, je comprends très bien que vous me parliez des économies que les ménages ont pu faire grâce à Emmanuel Macron. Ça, c'est à discuter. Je ne vais pas entrer dans cette querelle de chiffres. Je ne vais pas entrer dans cette querelle. Moi, j'ai une question simple. Je vais vous parler, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui va travailler avec sa voiture, qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de train, parce qu'il n'y a pas de bus. C'est le cas de beaucoup de Français. Chaque mois, ça peut lui coûter jusqu'à 100 euros ou 200 euros de plus. Alors, est-ce que... je vous ai écouté hier à l'Assemblée, vous parliez de vigilance. Le gouvernement sera vigilant. Mais est-ce que votre vigilance va lui suffire ? Franchement, Jean-Baptiste Djebbari.
Au-delà de la vigilance, on a une augmentation, par exemple, aujourd'hui, du prix de l'énergie.
Oui.
Assez forte.
Oui.
On a renforcé encore le chèque énergie.
Non, mais d'accord,
qui vise à soutenir le pouvoir d'achat.
Voilà ce qu'on fait à côté. Écoutez,
Je vais répondre.
Alors,
on a un texte budgétaire qui est présenté aujourd'hui. Dans ce texte, il y aura un débat budgétaire. Les solutions, encore une fois, elles sont connues. Je le dis, elles n'apportent pas de solution de long terme. La seule solution de long terme, c'est de sortir de la dépendance des énergies fossiles. Ça, c'est une vraie politique de moyen terme.
D'accord.
Et c'est essentiel. Et c'est ce qu'on fait par ailleurs.
Mais à court terme.
Et à court terme, il y aura un débat. Moi, le débat, je ne le préempte pas. C'est en plus pas mon portefeuille ministériel. Il y aura un débat. Encore une fois, monsieur Bourdin, la politique en faveur du pouvoir d'achat, ce qui compte, les dépenses contraintes, ça se met en garde des augmentations du pouvoir d'achat. Dépenses contraintes. Et vous les citez à juste raison, la voiture, c'est
une des dépenses contraintes. Donc il n'y aura pas de baisse des taxes sur les carburants.
Donc il y aura un débat. En tout cas, c'est pas la proposition aujourd'hui
qui est gouvernement
dans le budget, puisque nous avons une politique massive.
Donc pas de baisse des taxes. Il va falloir trouver d'autres solutions pour être vigilant.
Il y aura un débat.
Il y aura un débat. D'autres possibilités.
Au Parlement.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité? Oui, je sais, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité à part surveiller, être vigilant pour faire baisser les prix du carburant?
D'abord, si on veut être conséquent, quand vous baissez une taxe qui, je le rappelle, finance les services publics, il faut dire ce que vous faites en regard. Parce que tous ceux qui nous disent aujourd'hui baisser les taxes, il faut qu'ils nous expliquent où ils font des économies ou comment ils refinancent les services publics.
Oui.
C'est un travail, ça, de responsabilité politique. Et par ailleurs, je le dis, il faut être factuel sur la très grande politique de soutien au pouvoir d'achat et la très grande réussite en la matière, inédite et incomparable par rapport au gouvernement précédent en termes de soutien au pouvoir d'achat.
Jean-Baptiste Djebbari, le pouvoir d'achat, est-ce que ce sera, selon vous, la première préoccupation des Français pendant la présidentielle ?
En tout cas, moi, quand je vais dans les territoires, les gens me parlent pas d'identité nationale, peu d'immigration, mais essentiellement de leur travail, de leur emploi, de la crise, du rebond et du pouvoir d'achat. Ça, c'est une certitude.
Bon,
de leur mobilité
alors,
aussi, parce que c'est mon portefeuille.
Justement, on va en parler du pouvoir d'achat. Budget, tout à l'heure en Conseil des ministres, présentation du budget 2022 pour les transports, puisque ça vous concerne. Est-ce que votre budget sera en augmentation ?
Alors, le budget au total sur le grand ministère, transition écologique, transport, logement, il est en augmentation. Et je le dis de façon très clairement, je n'ai pas le chiffre au total sur le grand ministère, mais je vais vous donner des chiffres précis. Sur le ferroviaire, par exemple, sur les 10 années depuis 2017, on investit 75 milliards d'euros.
Mais depuis 2017, mais moi, ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est le budget 2022.
Je prends exemple sur les routes. Alors, je prends exemple sur les routes. On est parti à 700 millions d'euros par an en entretien et en régénération des routes. On va arriver quasiment au milliard d'euros. Vous voyez ? Donc, le budget de régénération des routes qui sont, comme vous le dites, et vous avez raison, la réalité de la vie des Français, on augmente le budget de façon absolument considérable. Avec le plan de relance, le plan d'investissement à venir, on a en plus réinvesti massivement pour décarboner les transports, ça veut dire aller vers des avions du futur.
Oui.
Transformer les le secteur automobile, les trains à hydrogène qui sont une réalité.
Quand est-ce qu'ils vont rouler ces trains?
Eh bien, ils ont roulé. Il a roulé, en tout cas.
En essai, mais.
À Valenciennes. J'ai l'occasion d'essayer. Ça fait la différence parce que, vous savez, un train à hydrogène, ça fonctionne. C'est un train électrique, c'est un moteur électrique. Ça fait pas de bruit, pas de vibration, et évidemment, pas de pollution. Et donc, c'est une grande réussite française.
Alors, justement, pour les transports, il va y avoir un plan d'investissement. On l'attend toujours, hein, qui sera présenté probablement par le président de la République, en octobre. Oui. C'est 30 milliards d'euros, dit-on. 30 milliards, combien pour les transports? Il y aura une part importante pour les transports.
Il y a deux grands objets, deux grandes transformations dans les transports. C'est la transformation de l'aviation décarbonée. Ça, c'est créer la nouvelle génération d'avions sobres en carbone, les avions à hydrogène, les avions hybrides électriques, qui par ailleurs volent déjà
des petits.
La semaine dernière à Jonzac, vous avez des avions électriques qui volent, des avions hybrides qui volent, et un formidable esprit d'innovation qui règne partout en France, contrairement aux esprits déclinistes qui voudraient la dépeindre autrement. Et deuxième sujet, deuxième grand sujet, les carburants alternatifs au kérosène. Ça aussi, c'est un grand sujet industriel. Ça consiste à faire voler les avions avec des huiles de cuisson usagées, avec des carburants d'origine synthétique, de l'hydrogène recomposé avec du CO2. Je ne rentre pas dans la technique, mais c'est la très belle industrie française à venir. Et puis, on a un autre grand sujet qui est la mutation de l'industrie automobile. On est dans une grande transformation vers l'électrique, avec une croissance totalement exponentielle.
Non, mais c'est formidable, l'électrique. C'est vrai que c'est formidable, cette transformation vers l'électrique, sauf qu'il n'y a pas de bornes. Et toujours pas de bornes. Sauf que,
Mais je vous donne les chiffres.
Mais moi, je vous donne la réalité du terrain.
Moi, je vous donne les chiffres.
Faites Paris-Lyon, il y a une borne sur deux qui ne marche pas.
Mais si vous voulez, d'abord, très grande augmentation. Début d'année, début janvier, vous aimez les chiffres. On avait 400 000 bornes en France.
Oui.
Aujourd'hui, au 1er août, on en a plus de 700 000. On en aura 1 million fin d'année. Les bornes, c'est essentiellement aujourd'hui les entreprises. Dans les entreprises et chez les particuliers.
Oui.
On avait un deuxième sujet, c'est ce que vous dites, ça s'appelle l'itinérance, c'est mettre des bornes partout sur les grands axes routiers. Les autoroutes, les grandes routes nationales. On aura couvert la moitié du réseau national d'ici à la fin de l'année, la totalité du réseau national d'ici fin 2022. Donc ça va vite. Le vrai sujet pour nous, ce qui nous reste, c'est essentiellement les stations-service, la grande distribution et les copropriétés. C'est là où on doit encore un peu accélérer, c'est les discussions qu'on a actuellement dans le cadre du plan d'investissement en France 2030. Il nous manque en gros 15 000 bornes de puissance intermédiaire d'ici à 2025. Vous voyez,
il y aura combien de bornes à la fin de l'année, 700 000 ?
Non, là on a 700 000, on aura 1 million de bornes sur le territoire
fin
2021, fin d'année.
1 million de bornes en tout sur le territoire.
Sur le réseau, ce que vous avez
à domicile. Il en faudrait combien pour qu'on soit bien équipé ?
Ça dépend de la puissance des véhicules, mais en gros, en 2025, ce qu'on vise, sera plusieurs millions de bornes. Mais il faut comprendre qu'il y a les bornes de grande puissance et on va vite. Oui. Je veux dire, on va plus vite que les Allemands. On aime bien quand même se s'autoflageller en France. On va plus vite que les Allemands, qui ont par ailleurs une industrie automobile que vous connaissez en très grande transformation.
Puisqu'on parle des routes, parlons des autoroutes. Hier, Anne Hidalgo était à votre place et elle était favorable à une baisse de la vitesse sur autoroute, passée à 110 pour 130. Vous aussi?
D'abord, il y a plein de secteurs autoroutiers dans lesquels vous êtes déjà à 110. Les déviations des grandes villes, autour de Paris. Il faudrait que Mme Hidalgo prenne sa voiture et aille justement visiter un peu la ruralité et des autoroutes sur lesquelles il est parfaitement sécuritaire de rouler à 130. Donc c'est une vision, encore une fois, si je puis dire, un peu parisienne des choses. Donc là, pour le coup, je peux répondre très clairement, je suis défavorable à cette proposition.
Vous êtes défavorable à cette proposition. 80 km/h sur les routes, là, vous êtes favorable, j'imagine, sur la route nationale.
Écoutez, on a payé pour voir, en quelque sorte.
Oui, vous êtes favorable.
En tout cas, la vraie différence.
Vous êtes favorable ou pas?
Non, mais la vraie différence, la logique, c'est que c'était une proposition proposée par des experts de la sécurité routière qui pointaient, pour le coup, le nombre de morts évitées.
Et où?
Madame Hidalgo, hier, je l'ai bien écoutée.
Oui.
Elle a fait une proposition un peu idéologique.
Vous êtes favorable aux 80 km/h ou pas? Vous.
Non,
je sens un peu.
Je réponds de façon très précise, puisque vous savez que nous avons proposé et mis en œuvre les 80 km/h, puis assoupli le dispositif.
Oui,
aujourd'hui, en réalité, vous avez ceux qui l'ont gardé et ceux qui sont revenus. Après, moi, je suis élu d'un territoire rural, vous voyez, en Limousin.
Et donc, c'est pour ça que
donc, je vois bien à quoi ça correspond, les 80 km/h. Je sais que ça a un peu enquiquiné les Français, même si,
vous aussi,
faisant partie de
vous
ce gouvernement et de cette majorité qui, par ailleurs, a débattu sur le sujet, j'assume la mesure qu'on avait prise.
Bon, et 30 en ville.
À ce moment-là.
Et 30 en ville.
Bah, 30
ça
en
vous
ville.
Va.
30 en ville, ça dépend sur quel
moment. Même à Limoges, j'ai eu.
30 en ville.
Ben oui.
Si c'est scientifiquement établi que ça fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, alors j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Le problème, c'est que les experts, et pas que depuis aujourd'hui, depuis assez longtemps, nous disent que ça n'a pas d'effet, peu d'effet, voire l'effet inverse, quand on compare les émissions à 50 km/h. Donc encore une fois, moi je ne suis pas dogmatique sur le sujet. Si Mme Hidalgo démontre, et les autres maires avec elle démontrent que 30 km/h, ça fait moins d'émissions, moi je dis pourquoi pas. Pour l'instant, ce n'est pas scientifiquement démontré.
La nationalisation des autoroutes, j'entends ça dans la bouche de plusieurs candidats à la présidentielle.
Aussi.
C'est une utopie, c'est une folie, c'est une bêtise, c'est quoi à vos yeux?
C'est démagogique au premier
c'est
degré.
Démagogique
au
pourquoi
dernier degré.
Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, les échéances, les concessions ont été privatisées, pour faire simple, en 2005-2007. Elles arrivent en fin de, à échéance entre 2031 et 2036. En 2031, pour les plus grosses, elles reviennent dans le giron de l'État. Pour 0 euro. Elles seront
dans 10 ans.
Elles sont remises en état et rendues à l'État. Et là, l'État devra dire, et d'ailleurs bien avant, autour de 2025-2026, qu'il entend en faire. Et moi, j'ai eu des propositions, y compris comme député, sur le sujet. Aujourd'hui, si on renationalise, ce que propose Mme Le Pen, M. Montebourg, on devrait payer pour indemniser les concessionnaires, parce que nous sommes dans un état de droit, fameux contrat, vous voyez, ça s'applique aussi aux autoroutes, pas qu'aux sous-marins, on devrait indemniser les sociétés concessionnaires, qui sont déjà en bonne santé financière, de l'ordre de 45 à 50 milliards d'euros. Donc vous voyez que c'est une proposition assez largement démagogique, en vérité. Et par ailleurs, les autoroutes, on les a sollicitées pour implanter des bornes sans compensation. Elles investissent plus de 500 millions d'euros là, dans les 18 mois pour déployer des bornes partout en France. Donc elles font aussi.
Les tarifs des péages vont augmenter ou l'année prochaine?
Les tarifs des péages sont
toujours.
C'est défini par contrat.
Défini
donc moi, je veux
contrat.
Bien que les personnes qui ont mal négocié les contrats viennent rendre compte, si vous voulez, aujourd'hui, de ces hypothétiques effets négatifs. Mais ces contrats ont été signés par. D'ailleurs, des gens qui, aujourd'hui, resollicitent le suffrage.
Le train, la gare du Nord à Paris, ne sera pas finalement transformée en partie en centre commercial. Le projet est abandonné. Un milliard et demi d'euros, c'était le coût de la transformation.
Ça n'a pas commencé comme ça. Le projet initial, c'était autour de 600 millions d'euros.
Oui.
Et c'est un projet qui a glissé vers 1,5 milliard, donc qui a quasiment triplé en coût, et qui, en plus, s'est vu décaler de 2 à 3 ans en calendrier. Donc c'est quand même la chronique d'un projet qui s'est mal déroulé sur le plan technique. Et
donc,
là aussi,
est abandonné.
Donc, il est abandonné, évidemment, en l'État. Nous avons, en lien avec la SNCF, le gouvernement, a prononcé la déchéance du contrat hier, en tout cas, a indiqué son intention de le faire. Et il est soutenu, la SNCF est soutenue par le gouvernement de ce point de vue-là. Il y aura un projet alternatif à trouver. Parce que l'aménagement de la gare du Nord, c'est un sujet sérieux. C'est sujet, je sais pas si vous voyez bien comment c'est fait, mais c'est quand même une gare qui est difficilement, praticable sur le plan de la gestion des flux. Donc on a demandé à la SNCF de repenser un projet, mais beaucoup plus réduit dans sa dimension, de l'ordre de 50 millions d'euros, pour faire l'aménagement et répondre aux enjeux 2023 et 2024. Et là aussi, quand même, ce projet de la gare du Nord, c'est un projet qui a été soutenu par la mairie de Paris, voté par la mairie de Paris, qui a ensuite fait campagne électorale contre le projet de la gare du Nord, pour ensuite le soutenir plus ou moins mollement. Vous voyez bien, pour qu'un projet réussisse, il y a les conditions objectives, qu'il soit bien géré sur le plan technique, et il y a la constance politique. Et sur ce sujet, on n'a pas eu de constance politique.
Le pass sanitaire assoupli dans certains départements.
Mais juste après, je file au Conseil de défense sanitaire. Ce sera un des débats du jour.
C'est possible. Que cette décision soit prise.
C'est toujours possible, puisque la
preuve du débat, c'est toujours possible.
On aura le débat dans une.
Vous êtes favorable, vous?
En tout cas, moi, je ne souhaite pas que le pass sanitaire reste effectif pour la nuit des temps, si vous voulez. Le pass sanitaire, c'est un outil.
Donc, dans certains départements, je sais pas moi, la Haute-Vienne, par exemple.
Enfin, un territoire.
Oui,
d'expérimentation.
Un territoire.
Moi, on l'a mis en place dans les transports longue distance.
Oui.
Pour inciter à la vaccination. Ça marche bien. Les gens,
même s'il y a
un
peu de contrôle.
Hommage. Il y a 30% des trains, 25 à 30% des trains qui sont contrôlés.
Dans ce débat, mais.
Et 99% de conformité de présentation du pass. Donc, le dispositif marche bien. C'est un outil. Il est à notre disposition. L'idée, c'est pas que l'outil soit appliqué pour la nuit des temps, dès lors qu'on a des conditions objectives de taux d'incidence et de diminution
Donc, assouplissement quand le taux d'incidence le permet.
En tout cas, c'est les bases de la discussion
qu'on aura. C'est ce que vous allez défendre.
Alors, c'est pas mon portefeuille,
c'est Olivier Véran qui proposera. Votre dire.
Oui, mais moi, j'explique ce qui se passe dans les transports, comment ça s'organise.
Oui. Ben, voilà.
Oui, je ne déborde donc, pas c'est... de ma compétence, non, mais en tout cas, ce sont les termes du débat.
Oui, ce sont les termes du débat et c'est un peu l'option que vous avez choisie.
Le président, franchement.
L'aérien, lever des sanctions américaines donc, pour aller aux États-Unis. Donc,
ça,
pour l'aérien, c'est une très bonne nouvelle. À propos de l'aérien, j'ai deux questions. D'abord, ces fameux créneaux horaires à Orly, à Bruxelles qui attribue à Vueling 18 créneaux d'Air France en contrepartie de sa recapitalisation par l'État français. 18 créneaux, c'est Bruxelles qui commande.
Mais en fait, il y a deux points de réponse. D'abord, oui. Nous avons négocié avec Bruno Le Maire il y a quelques mois et Madame Vestager, la commissaire à la concurrence, le moins mauvais deal pour la France. En l'occurrence, pour Air France KLM.
Ouais, c'est un mauvais deal, quoi.
Non, mais j'y viens.
Le moins mauvais, c'est un mauvais deal.
Non, mais j'y viens. Je vais être très honnête. Non, mais j'y viens. Le moins
Est-ce
mauvais
que c'est
deal.
Un mauvais deal.
C'est-à-dire que nous avons appliqué, parce que nous avons appliqué le droit de la concurrence européenne actuelle.
Oui.
Et nous avons fait en sorte, ce qui était quand même inédit, de mettre des garanties sociales pour qu'on n'ait pas d'entreprises de compagnies aériennes qui viennent, par exemple, exercer un dumping social et fiscal. Après, si la question que vous me posez, c'est de savoir si, à la fois, dans les transports, le droit social est adapté et le droit de la concurrence est adapté, ma réponse, c'est plutôt pas. Il faudra le changer. Je vous prends quelques exemples. On a eu.
Vous allez présider, la France va présider.
Mais justement, c'est pour ça que je le mets
c'est
au débat.
Ce que vous allez proposer, vous le mettez au débat, la France va le mettre au débat.
Mais bien sûr qu'on va le mettre au débat pour plusieurs raisons.
Réforme du droit européen, droit aérien.
Droit social, droit de la concurrence, c'est droit essentiel. Je prends droit social. L'exemple des routiers. Même
oui.
Si on a eu des améliorations, on a quand même l'exemple assez quintessent des transporteurs routiers français qui ont subi le dumping social fiscal en intra-européen, essentiellement venu des pays de l'Est, pendant plusieurs années. On a fait des avancées, c'est encore insuffisant. Le transport aérien, on a vu émerger des opérateurs low cost, il faut le dire, ont souvent un peu rançonné les collectivités publiques, ont développé des modèles franchement marginaux par rapport au droit européen, qui doivent être révisés. Et puis on sait faire aujourd'hui un bilan critique de l'ouverture à la concurrence. Je prends un exemple, le fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, vous avez des parties, des segments de marché qui s'accommodent très bien de la concurrence, et d'autres pas du tout, et qui sont totalement stratégiques. Et ce que je dis là, c'est partagé, ça fait un an et demi que j'y travaille, c'est partagé par 18 pays européens. Ça prend toujours du temps, l'Europe, parce qu'on décide à 27.
Mais ce sera mis sur la table.
Mais c'est évidemment mis sur la table.
Janvier.
Mais je crois que c'est nécessaire, y compris d'ailleurs pour que les Français se raccrochent à l'idée.
Air France se réforme grâce à l'État et Bruxelles met des bâtons dans les roues à la compagnie. C'est quand même.
La commissaire.
Pardon, mais.
Non, mais la commissaire Vestager, elle applique le droit européen qu'on lui donne.
Mais d'abord,
le sujet, c'est pas Madame Vestager.
C'est incompréhensible pour le citoyen moyen.
Parce qu'on fait semblant que Bruxelles est autonome. Ceux qui font les normes européennes, c'est pas la Commission, essentiellement. C'est pas que la Commission, en tout cas. C'est la Commission et les États.
Oui.
Donc c'est politique, ce sujet. C'est pas un sujet technocratique, c'est un sujet politique. Donc, quand le droit est inadapté, il faut le changer. Et on a une opportunité incroyable pour le changer. Ça s'appelle la présidence française de l'Union européenne.
À partir de janvier, vous allez essayer de changer ce droit de la concurrence, ce droit européen de la concurrence. À propos de concurrence, il y en a qui sont peut-être privilégiés, c'est le Qatar. Qatar Airways. J'ai vu ça, c'est absolument incroyable. La Commission européenne va signer un accord ciel ouvert avec le Qatar.
Et ben
c'est-à-dire
moi,
tous les avions de Qatar Airways vont pouvoir atterrir, choisir leurs horaires, leurs créneaux sur tous les aéroports de l'Union européenne.
Ben, je vais vous dire, c'est un vrai sujet. Pour moi, c'est un vrai sujet. Parce que quand on regarde un peu sur l'histoire longue, on a fait venir beaucoup d'opérateurs du Golfe, qui sont d'ailleurs avec des bons produits. Mais quand on regarde aujourd'hui,
mais avec des problèmes sociaux et avec des conditions sociales insupportables.
Également, pour certaines, pas surtout.
Oui, pas pour certaines. Oui.
Mais sur certaines, c'est vrai. Et quand on regarde aujourd'hui la part de marché des opérateurs français à Roissy, comparativement à ce que c'était il y a plusieurs années, c'est absolument déséquilibré. Ça, c'est une construction des gouvernements successifs, etc., etc. Aujourd'hui, il faut regarder ce sujet de l'accord de libre-échange, en tout cas de l'ouverture de la libéralisation du ciel avec le Qatar et d'une manière générale avec les pays du Golfe.
Vous êtes contre ?
Moi, je suis, si vous voulez, en toute chose, sur ces sujets, je suis pour une stratégie française et européenne. Dans cet ordre-là, française et européenne. Ça veut dire. Non, mais je réponds à votre question. Ça veut dire européenne au bénéfice. Des intérêts
Est-ce
des
que
Européens.
L'Europe doit dire non ? Est-ce que l'Europe ne doit pas signer cet accord ?
Mais les accords, ça dépend des modalités dans les accords. Si vous ouvrez vos frontières et que, in fine, vous avez dans 5 ans, dans 10 ans, l'essentiel des opérateurs des liaisons qui sont opérés par les opérateurs,
c'est
un mauvais accord.
Mais c'est ce qui va se passer.
Par ailleurs, c'est déjà un peu ce qui est en place dans
Avec le fret notamment.
Est-ce que la France doit signer cet accord?
Moi, je vous dis de façon...
Que l'Europe doit signer cet accord?
Je vous dis de façon très concrète. Aujourd'hui, on est en capacité... Je vais répondre à votre question. On est en capacité de faire un bilan critique. Un bilan critique de la libéralisation dans les transports, y compris... Sur cet élément-là,
donc,
il y a une discussion. Il y a une discussion. Moi, je suis pour un accord équilibré. Et s'il n'est
pas
équilibré,
pour un accord
équilibré. Et s'il n'est pas équilibré, on ne signe pas.
Vous êtes pour
c'est
un
aussi
accord.
Simple que ça.
Ouais, équilibré.
Mais si l'accord n'est pas équilibré, on ne signe pas.
Merci Jean-Baptiste Mathieu Barry d'être venu nous voir ce matin à 8h53. Vous êtes sur RMC et BFM TV.